J'ai une question, j'ai deux remarques. J'ai deux questions et une remarque. J'ai une remarque qui est... ça me fait beaucoup penser à la santé, de plus en plus, l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut avoir une précision chirurgicale, réduire les risques au maximum, et que ce soit ce qui a été dit... tout à l'heure sur l'aspect agronomique ou à l'instant sur l'aspect pilotage économique, voire fiscal quand même, de l'exploitation, on est sur du sur-mesure. Parce que je comprends que du coup, dans l'outil Protellis, chacun est libre de définir ce qu'il veut faire et de reprendre au moment où il le souhaite, nonobstant les considérations des 10 ans, hein, si j'ai bien compris. Alors moi, j'ai deux questions. C'est la première... comment ces outils participent de l'attractivité du secteur et du renouvellement des exploitations agricoles vers la jeunesse. Vous avez évoqué ça, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Est-ce que entre l'aspect performance, soutenabilité avec ce système intra-parcellaire et est-ce que avec ces outils-là très modernes aussi d'un point de vue économique, que d'ailleurs l'Australie avait depuis longtemps développé, hein, c'est ce qu'on appelait l'écrêtement, sauf erreur de ma part. Donc parfois on voit bien que, c'est ce que je disais, les politiques publiques sont en retard de phase par rapport aux besoins du secteur, puisque ça date que de 2019. Mais est-ce que ces outils-là participent de l'attractivité du secteur et du narratif vers la jeunesse, à la fois cet outil et ce que vous faites en intra-parcellaire?
Je pense qu'on a, enfin, comme l'a montré Clément, on est en mesure d'accompagner les jeunes et les jeunes agriculteurs à se développer. On a fait un principe, c'est dans Protellis, c'est que, enfin, avec les coopératives, c'est que c'est un système qui est gratuit pour les adhérents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de gestion de compte, il n'y a pas tout ça. Les coop peuvent même rémunérer cette épargne, ils n'en sont pas obligés, mais bon, par exemple, MC2 le fait, et le fait très bien. Voilà. Donc après, c'est à le libre arbitre de chaque coopérative. Et donc c'est là où nous, on apporte, enfin, la société Protellis, la petite société Protellis, apporte ce service aux coopératives. Ensuite, après, les coopératives le développent. S'ils veulent même booster l'épargne pour les jeunes agriculteurs, pourquoi pas? C'est une idée que je soumets. Tu pourras appuyer, Clément. Voilà, il ne me l'avait pas demandé. Voilà.
C'était un peu intuitivement ma suggestion.
Mais voilà, mais non, mais après, je pense que dans toutes les coopératives, aujourd'hui, on a tous des politiques pour les jeunes agriculteurs. Alors après, parce que c'est comme je dis, je suis génétiquement aussi d'une coopérative. Hein, je suis de la coop Natop à la base. Donc il y a aussi dans la coopérative Natop des politiques pour les jeunes agriculteurs, et il y a des politiques pour les jeunes agriculteurs dans toutes les coopératives. Ça peut être d'accès à certaines filières, ça peut être à certaines conditions pour se financer, etc. etc. Donc, mais après, le but aussi de cette épargne de précaution avec Protellis, c'est de l'ouvrir à tous les adhérents de la coopérative, quelle que soit la génération. Et on a demandé à nos coopérateurs, à nos coopératives, que ce service soit gratuit pour leurs adhérents. Voilà.
Je pense que dans l'attractivité de l'agriculture, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect d'image. Et puis un deuxième aspect, effectivement, est-ce qu'on apporte des solutions aux jeunes agriculteurs qui s'installent pour justement développer cette résilience-là? Et donc l'aspect image et l'aspect performance économique, résilience, pour nous, vont de pair. Et je pense que l'agriculture de précision... voilà, ouvre de nouvelles perspectives en s'appuyant, en valorisant la technologie, crée une certaine attractivité, une nouvelle attractivité, justement en se démarquant de l'image classique que les gens qui ne connaissent pas l'agriculteur ont de l'agriculture. Et puis ensuite, effectivement, nous, pareil, on a des solutions jeunes agriculteurs, notamment, forcément, la mise en route d'une démarche d'agriculture de précision va nécessiter des investissements au démarrage, hein, matériel, agronomique, etc. Et donc, on a une offre jeunes agriculteurs qui consiste à étaler la facturation des services sur 6 ans sans frais aucun.
On on parle d'offres innovantes. Et quelque part, pour se démarquer et attirer la jeunesse, il faut développer une approche innovante et plus globale. Si historiquement, on était sur des questions de technicité, sur des techniques de commercialisation ou de structuration de filière, nos adhérents au quotidien, ils ont encore besoin d'autre chose. Leurs casquettes sont multiples et il faut qu'on soit capable, nous, coopératives, de répondre à ces casquettes multiples. Et en ça, toutes les offres de services qui viennent de nous être présentées répondent à ces problématiques-là de nos adhérents.
Merci. Maintenant, je vais laisser les journalistes poser des questions.
Merci. Raphaël Lecoq, de Plein Champ, j'aurais une ou deux questions à chacun des trois intervenants. Je commence par vous, Monsieur Abyss. Vous avez cité tout à l'heure les trois piliers, sécurité, soutenabilité et santé. Est-ce que dans la conjoncture de guerre aux portes de l'Europe qu'on a aujourd'hui, est-ce que les deux derniers piliers pourraient être mis entre parenthèses momentanément pour axer sur l'aspect fondamental qui est celui de la sécurité alimentaire?
Non. Précisément non, parce qu'aujourd'hui, je persiste et signe, il faut faire l'Europe de la 2G en agriculture. Il faut combiner Green Deal et géopolitique. Ça fait 3 ans que je martèle ça, en me plaignant un peu que la géopolitique et cette dimension géopolitique de l'agriculture ait été peut-être un peu mise de côté ou moins considérée. Mais on voit depuis 3 ans au niveau européen que dans tous les discours autour du retour d'une Europe puissance ou d'une construction d'une Europe plus autonome stratégiquement, les considérations sur les insécurités alimentaires mondiales ou les forces agricoles de l'Europe sont émises. Et dans la sphère agricole qui est de plus en plus teintée d'environnement, toutes les considérations géopolitiques et stratégiques étaient quasiment absentes. Donc moi je crois qu'il faille faire la combinaison des deux. Il ne faut pas que l'actualité chaude dans l'émotion nous fasse perdre une bonne vision des choses. La vision des choses, c'est précisément, et moi je considère que dans cette complexité agricole ou du monde, il n'y a jamais de bonne solution si on est dans l'opposition. Donc ce n'est pas le combat du climat versus le combat nourricier, économique ou géopolitique, c'est la combinaison des deux. Ce qui est très compliqué, c'est ce que je dis, mais néanmoins, les deux doivent être maintenus. J'ai passé la semaine au salon pour tenter, quand je pouvais, à certains d'indiquer qu'il ne fallait surtout pas dire que le climat n'était plus un sujet, faute de quoi, dans l'attractivité nouvelle génération ou regard politique et médias et société, ce coup de balancier ne serait pas non plus compris. Par contre, il faut laisser naturellement le coup de balancier se faire. C'est que tout le monde constate, ce n'est pas pour rien que les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne hier matin ont quand même constaté collectivement qu'il y avait peut-être un peu de correction à faire par rapport à la stratégie Farm to Fork. Non pas en disant que ce n'est pas une bonne stratégie, mais en disant si on veut la faire, il faut être solide sur les fondamentaux. Donc c'est ça le coup de balancier qui se joue en ce moment, c'est peut-être reprendre conscience des évidences, tout simplement, mais surtout pas opposer.
Je voudrais aussi revenir sur les deux chocs dont vous avez parlé avec à chaque fois une question. S'agissant de la politique qui allait à l'encontre des exigences de constance du milieu agricole, vous avez parlé de désarmement par rapport aux prises de risques qui sont le quotidien des agriculteurs. Vous faisiez allusion à quoi concrètement en termes de politique publique, concrètement, c'est par exemple le côté phytosanitaire, les restrictions d'usage de certains produits. Quand vous parlez de désarmement par rapport aux risques agricoles, c'était quoi?
Pour moi, le désarmement agricole européen ou français ces dernières années, c'est le fait d'avoir peut-être moins investi sur la recherche, la science d'une part. C'est aussi d'avoir peut-être condamné des modèles, des trajectoires, l'export, comme si tout ça était mal et pas combinatoire avec tout le reste. Et donc, quand je dis qu'il manque de la constance, c'est parce qu'on sait bien qu'en agriculture, un quinquennat, ce n'est pas grand-chose. Et donc, nous sommes pris, mais ça, ce n'est pas que le monde agricole, je veux dire, il faut là aussi désagricoliser parfois certains débats. Nous sommes pris dans plein de secteurs et réflexions dans nos sociétés par ce temps court. Et ce temps court, parfois, nous empêche d'avoir une stratégie de long terme et de la maintenir. Or, le monde agricole a besoin de prévisibilité. Ce n'est pas ce qui vient d'être dit sur... Vous avez vu les écarts de prix, quand même. C'est en train de parler de choses monstrueuses, d'incertitudes. Et en même temps, de chirurgie précise sur les exploitations. Et donc, il faut un peu de constance. Si les règles changent tout le temps ou trop rapidement, que ces règles qui changent ne sont pas cohérentes entre elles, il y a plein d'exemples. Et si en plus ces règles entre filières, entre régions, entre pays de l'Union européenne ne sont pas les mêmes, ben vous avez un problème de cohérence. C'est pour ça que je dis constance, cohérence et coopération, parce que c'est aussi, au départ, le projet de la PAC, c'est celui-là. Vision de long terme, unité des politiques et en même temps, solidarité, parce que finalement, l'Union européenne, c'est une grande mutuelle, hein. C'est une grande coopérative politique et agricole, si on veut parler très clairement. Et dans tout cela, la prise de risque, elle est dans le monde agricole. Et moi, consommateur, je suis le premier bénéficiaire des politiques agricoles européennes ou françaises. Ce n'est pas l'agriculteur le bénéficiaire. Lui, il est l'instrument pour mettre en sécurité tout le monde. Donc c'est là où on a raté peut-être un narratif. Et donc, en ce moment, comme il y a des jeux géopolitiques qui permettent peut-être de retrouver un peu le bon sens sur ce qui est l'essentiel et peut-être laisser le superflu un peu de côté, pas succomber aux émotions. Et encore une fois, le climat, comme la surchauffe géopolitique, il y a des guerres chaudes demain et le climat en fera partie.
Et une dernière question, c'est concernant le choc sociétal, je crois, que vous avez évoqué, et plus précisément les injonctions contradictoires des consommateurs. Donc les agriculteurs sont aux prises avec cela, hein, en essayant d'améliorer leur process et la qualité finale de leurs produits avec des signes de qualité, etc. Et d'un autre côté, des consommateurs qui acceptent pas forcément de mettre plus au porte-monnaie. Donc on est face à cette injonction-là. Vous avez des solutions ou des pistes pour faire en sorte de faire évoluer le comportement des consommateurs?
Moi, je n'ai pas de solution parce que le consommateur, c'est le premier souverain et il doit rester libre. Donc en fait, le consommateur doit faire ce qu'il veut puisque l'alimentation, c'est le bastion de la liberté à l'échelle mondiale. Il y a plus de gens libres dans leur manière de consommer que de gens qui votent librement dans des démocraties dans le monde. Donc l'alimentation, c'est le bastion de la liberté. Et donc précisément, le consommateur, il est multiple, il est extrêmement contradictoire. On peut manger bio le vendredi et junk food le vendredi soir devant un match de rugby. C'est pas contradictoire. On peut manger en famille le dimanche et manger de manière éclatée en snackant tout au long de la semaine. Par contre, il y a une réalité. C'est que tout le monde n'est pas en train d'augmenter sa dépense alimentaire mensuelle pour l'alimentation, parce qu'il faut un pouvoir d'achat, et que le vouloir d'achat, déclaration trottoir, bute sur une réalité caddie et tapis de caisse. Donc le pouvoir d'achat comprime, et je vais aller jusqu'au bout presque du paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont un pouvoir d'achat très élevé et payent parfois très cher certains produits, globalement en quantité, ils déconsomment. Donc, ils ne tirent pas forcément les revenus agricoles. Ils sont plutôt dans de la déconsommation en quantité. Peut-être dépenser très cher certains produits ou certains repas dans la semaine, mais globalement, il y a de la déconsommation. On va manger moins. Les très riches mangent de moins en moins, en fait. Frugalité, hein. Il faut se donner bonne conscience aussi d'avoir de l'argent, parfois. Donc, non mais je provoque. Donc, il y a un peu ces choses-là. Est-ce qu'on doit avoir, et pour répondre à votre question, est-ce qu'à cause de tout cela, on doit avoir demain des mesures dirigistes pour éduquer ou forcer les gens à manger de telle ou telle façon, puisqu'on est en démocratie et que je suis personnellement attaché à cela, comme je crois beaucoup d'entre nous, en aucun cas aller dans de l'autoritarisme autour des comportements alimentaires. Donc le sujet, c'est plus l'éducation dès le plus jeune âge, et puis le bon sens, et puis... un discours global, mais surtout n'allons pas vers du dirigisme alimentaire. Il n'y aurait rien de pire.
Merci. Une question pour Protelis. Je voudrais savoir où en fait vous avez dit, donc vous n'êtes pas fiscaliste, mais par rapport à votre offre de de produits. Là, je voudrais savoir où se situe en fait le curseur du conseil. Donc, vous avez la solution, aux agriculteurs, aux adhérents de s'en emparer, mais vous, jusqu'où vous pouvez aller donc pour conseiller un agriculteur dans le fait de se décider dans ce produit-là, et à quelle hauteur, quel est votre rôle en fait? Est-ce que vous avez juste informatif ou vous allez un peu plus loin dans le conseil?
Alors, je vais dire ça dépend des copains. Déjà, premièrement, vous êtes de plein champ. Donc, je vous remercie parce que vous m'avez offert fin décembre, il y a eu quelques paragraphes sur Protélis dans votre revue, donc, sur le truc Internet. Donc, c'est sympathique. Merci, parce que ce n'était pas forcément évident, parce qu'on peut être un petit peu concurrent des fois sur ce domaine-là. Non, on n'est pas. Enfin, aujourd'hui, à ma connaissance, il y a très peu de coopératives qui donnent des conseils de fiscalité. Après, je dirais chaque coopérative. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est quand même dans notre milieu, ça bouge beaucoup. Donc avant, il y a essentiellement les COP et les négoces, entre guillemets, qui faisaient des conseils, on va dire, techniques au niveau des agriculteurs. Aujourd'hui, maintenant, il y a même des centres de gestion qui donnent des conseils techniques au niveau. Donc je dirais, ça part un peu. Voilà. Donc aujourd'hui, chaque coopérative est capable d'inventer des nouveaux services. À ma connaissance, aujourd'hui, on n'est pas des fiscalistes dans les COP. Mais pourquoi pas le devenir? Mais c'est pas. Et notre rôle, pour l'instant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on apporte un service, comme peut l'apporter une banque, par exemple, pour pouvoir créer de la DEP. Mais moi, étant issu d'une COP et avoir commencé à lancer Protélis au niveau de ma coopérative, j'ai toujours été clair. Notre rôle, c'est pas de dire à un agriculteur quelle somme il doit mettre en. Est-ce qu'il doit faire de la DEP? C'est pas notre rôle. Quelle est la somme qu'il doit mettre en DEP? C'est pas notre rôle. Nous, on apporte juste un outil différent qui permet à l'adhérent de pouvoir faire sa DEP avec nous. Voilà. Et comme on est. Clément, il me l'a dit en off tout à l'heure, mais il ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il dit aujourd'hui, j'ai eu des rapports avec ma coopérative qui m'ont soutenu pendant toute mon installation. Et aujourd'hui, je me vois mal, entre guillemets. Si je dois faire ma DEP, je préfère la faire avec ma COP. Voilà. Donc c'est ça, mais on n'est pas après, je ne peux pas vous garantir à 100% qu'une coopérative demain n'apportera pas un conseil de fiscalité. Ça, ils sont libres, chacune de COP, de faire ce qu'elles ont envie.
Juste une précision, la DEP, elle est inscrite dans la loi jusqu'en 2023, non, c'est ça ou pas?
Mais pour l'instant, c'est un premier, entre guillemets, il y a eu un premier galop d'essai de fait. Donc ils ont lancé en 2019, ils parlent de 2023. De toute façon, ça sera, après, je pense que. Ce sera des cycles, ils vont revoir, c'est tout nouveau, donc ils vont revoir en 2023 ce que ça donne, est-ce que ça a été utilisé, est-ce que c'est un bon système. De toute façon, dans la loi de 2019, c'est marqué déjà que tous les agriculteurs qui plaçaient de l'argent pouvaient la laisser jusqu'à 10 ans. Donc ça veut dire que si derrière, ils inventent autre chose, eh ben, y a quelque chose qui prendra le relais. Mais ça, je suis à l'écoute, mais je ne suis pas dans les secrets pour l'instant.
Et vous communiquez sur les montants, des données un petit peu quantitatives de l'épargne que vous collectez via Protélis?
Non. Non, on ne le communique pas. C'est après, déjà, c'est à la discrétion de chaque coopérative. Okay.
Et j'ai une dernière question pour M. Darbin de BIAPI. Indépendamment donc des solutions d'apport différencié intra-parcellaire, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte à la fois d'évolution du prix des engrais et du prix des céréales, dans la mesure où l'engrais est juste un moyen de production, en termes d'investissement, est-ce que la logique veut qu'on ne désinvestisse pas malgré le prix des engrais sous réserve qu'il soit disponible, dans la mesure où, à l'arrivée, ça va participer à produire et à valoriser encore plus si les marchés céréaliers continuent aussi d'évoluer. Est-ce que j'ai été clair?
Je crois. Ce qu'il y a, c'est que la fertilisation de fonds, enfin, je différencierais la fertilisation de fonds par rapport à une fertilisation plus annuelle que représente l'azote. Sur la fertilisation de fonds, on est presque sur une gestion moyen terme de l'état de fertilité d'un sol. Donc ce qu'il faut, c'est éviter les erreurs techniques qui pénaliseraient la production. Mais sur un sol normalement pourvu, on peut faire une impasse sans risque agronomique majeur. Sur la fertilisation azotée, non, c'est très différent. Il faut apporter la bonne dose qui correspond à l'optimum technico-économique.
La question, c'est est-ce qu'il y a un risque de désinvestissement de la part des agriculteurs ?
Mais bien sûr.
Apeuré par le prix de l'azote, alors qu'à la fin, il risque de le récupérer un peu plus vu que le produit se valorise aussi.
Bah sûrement, le comportement d'abord le comportement des agriculteurs, il est très variable, mais c'est sûr que là aujourd'hui on enregistre plutôt des baisses de consommation liées à l'envolée des prix. Ça, je dirais, c'est presque un comportement normal. Je dis pas qu'il est souhaitable, mais il est assez normal. Il est économiquement pas rationnel dès lors où le rapport du prix de l'azote sur le prix des céréales évolue. Enfin, en fait, ce qui est important dans l'efficience de la fertilisation azotée, c'est le rapport du prix de l'unité sur le prix du quintal. Si ce rapport-là n'évolue pas, c'est-à-dire que si le prix de l'azote est multiplié par 2 et le prix des céréales est multiplié par 2, il n'y a pas de déplacement de l'optimum économique. Mais on n'est pas tout à fait là. L'azote évolue plus vite que le prix des céréales. Et donc, effectivement, ça pousse à une réduction de l'optimum technico-économique des doses. Mais à combien sera le prix du quintal lorsque l'agriculteur le vendra ? Là, il sait à combien est son prix d'azote au moment de l'application. Mais à combien il va vendre ses céréales dans 6 mois ? Ça, on ne sait pas.
Il a les moyens de pouvoir le faire. Il peut utiliser les marchés à terme.
Oui, oui.
Il y a plein de choses pour avoir des options. Quand même, il y a plein d'outils aujourd'hui pour pouvoir.
Question. Oui, bonjour, Hélène Laurendel, Agrodistribution. Moi, je voulais poser une question parce que c'est vrai qu'on parle depuis des années quand même du sol, de sa connaissance, de l'agriculture de précision. Donc, j'aimerais savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est exactement en termes de développement sur le terrain et quels sont les freins. J'imagine qu'il y a des freins, sûrement, parce que j'ai l'impression que ce développement n'est peut-être pas aussi important que ça, parce qu'on en parle quand même régulièrement, comme s'il y avait toujours besoin de pousser dessus. Et j'aimerais savoir quels sont les freins et comment les lever, surtout, et comment on peut, nous aussi, en tant que revue professionnelle, participer à cette évolution et cet accompagnement. Voilà. Merci.
Alors effectivement, d'abord la société Biapi, c'est une société qui peut-être un petit peu plus, qui a un petit peu plus d'antériorité que Protélis, puisqu'on a été créé fin 2016, mais c'est quand même une société extrêmement récente. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des pays où l'agriculture de précision se développe très rapidement. Je pense l'Angleterre, je pense l'Allemagne, sans parler de nos des continents nord-américains, que ce soit les États-Unis ou le Canada. La difficulté, et lorsqu'on regarde un petit peu les études américaines, nord-américaines, sur effectivement quels sont les freins au développement de l'agriculture de précision, parce qu'eux, ils ont un historique important, ils sont aperçus que le premier frein, c'est le fait que l'agriculture de précision ne soit pas enseignée dans les écoles. Donc ça veut dire que, en fait, l'agriculteur, quand il s'installe, il n'a pas de notion de cette agriculture de précision. Et donc, il y a tout ce travail pédagogique à faire. Ensuite, l'agriculture de précision, les Américains l'ont bien vu, ça suit un peu une pyramide de Maslow. C'est-à-dire que ça ne permet pas de régler des problèmes d'exploitation. Ça permet à une exploitation qui fonctionne bien dans son état actuel d'aller plus loin. Et donc, je pense que voilà, il y a tout un travail de démystification de l'agriculture de précision. Nous-mêmes, lorsqu'on avait lancé l'agriculture de précision, on avait interrogé à peu près 6 000 agriculteurs pour savoir quels étaient les freins qu'ils voyaient à l'agriculture de précision. Le premier frein, il nous disait, grosso modo, c'est quand même, est-ce que les machines vont tenir leurs promesses ? Et c'est toutes les notions d'interopérabilité entre machines. C'est-à-dire, j'achète un tracteur d'une marque, j'achète un épandeur d'une deuxième marque, j'achète un pulvérisateur d'une troisième marque. Est-ce que tout ça, ça va bien fonctionner ensemble ? La deuxième chose, c'est se dire, on comprend l'intérêt de l'agriculture de précision, mais on attend aussi d'avoir un retour d'expérience de la part de collègues. Et en fait, c'est un développement où plus on aura d'agriculteurs qui mettront en œuvre l'agriculture de précision, plus le développement sera rapide. Donc on est sur une phase de démarrage et on espère que aujourd'hui, ça se développe bien. EMC2 a fait un très beau score cette année en termes de développement de l'agriculture de précision. Et je pense que ça va constituer un socle de développement parce que si les agriculteurs sont satisfaits, ils vont en parler autour d'eux et ça va créer des émules, etc. Donc je pense que, un peu à l'image de ce que nous disait Sébastien, il faut être endurant. C'est un développement qui va s'inscrire dans la durée. Il faut être endurant. C'est au bout de 10 ans qu'on va voir les efforts payés, enfin tous les efforts qu'on fait aujourd'hui payés. Et effectivement, les journaux ont un rôle de vulgarisation indéniable. Et effectivement, plus on va parler de l'agriculture de précision, plus on va démystifier l'agriculture de précision et plus le développement sera facilité.
Moi, je vous invite, si vous avez encore des questions, à venir sur le stand de Bioline.